Le livre des juges, chapitre 10. Nous avons vu dans nos cantiques que nos ressources sont dans le Seigneur Jésus. Et nous avons vu ça aussi dans Juges 9 la dernière fois, dans Jotham, que nos ressources sont en Dieu, même dans les jours les plus difficiles. Et on va lire maintenant de quelques juges après Abimélec, dans Juges 10 et 11. Et après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour sauver Israël. Et il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il jugea Israël 23 ans. Il mourut et fut enterré à Shamir. Et après lui se leva Jaïr, le Galaadite. Et il jugea Israël 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anons. Ils avaient 30 villes qu'on a nommées jusqu'à aujourd'hui les bourgs de Jaïr, lesquels sont dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Caman. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Ashtoreth et les dieux de Syrie, les dieux de Sidon et les dieux de Moab et les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent pas. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Il les vendit en la main des Philistins et en la main des fils d'Ammon qui opprimèrent et écrasèrent les fils d'Israël cette année-là. Pendant 18 ans, ils écrasèrent tous les fils d'Israël qui étaient au-delà du Jourdain, dans le pays des Amoréens qui est en Galaad. Et les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour faire la guerre aussi contre Juda et contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et l'Éternel dit aux fils d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens et des Amoréens, des fils d'Ammon et des Philistins, et les Sidoniens et Amalek et Mahon vous ont opprimés, et vous avez crié vers moi, et je vous ai sauvé de leurs mains. Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, criez aux dieux que vous avez choisis. Eux vous sauveront au temps de votre détresse. » Et les fils d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Fais-nous selon tout ce qui sera bon à tes yeux. Seulement, nous te prions, délivre-nous ce jour-ci. » Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers et servirent l'Éternel. Et son âme fut en peine de la misère d'Israël. Et les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad. Et les fils d'Israël s'assemblèrent et campèrent à Mitzpah. Et le peuple, les princes de Galaad, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera à faire la guerre contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. » Or, Jephté, le Galaadite, était un fort et vaillant homme, et il était fils d'une prostituée. Et Galaad avait engendré Jephté. Et la femme de Galaad lui enfanta des fils, et les fils de sa femme grandirent, et chassèrent Jephté, et lui dirent, « Tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car toi, tu es fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit de devant ses frères et habita dans le pays de Tob. Et des hommes légers se ramassèrent autour de Jephté, et ils entraient en campagne avec lui. Et il arriva quelque temps après que les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent pour amener Jephté du pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens et tu seras notre capitaine, et nous combattrons contre les fils d'Ammon. » Jephté dit aux anciens de Galaad, « N'est-ce pas vous qui m'avez haï et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Et pourquoi venez-vous à moi maintenant, que vous êtes dans la détresse? » Et les anciens de Galaad dirent à Jephté, « C'est pour ceci que nous sommes maintenant revenus vers toi, afin que tu viennes avec nous et que tu fasses la guerre contre les fils d'Ammon. Et tu seras notre chef, à nous tous, les habitants de Galaad. » Et Jephté dit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, serai-je votre chef? » Et les anciens de Galaad dirent à Jephté, « L'Éternel est témoin entre nous si nous ne faisons pas selon ce que tu as dit. » Et Jephté alla avec les anciens de Galaad, et le peuple l'établit chef et capitaine sur lui. Et Jephté prononça toutes ces paroles devant l'Éternel à Mitzpah. Jusqu'ici la lecture de la parole. Si on voulait donner un motto pour ce livre des juges, on pourrait peut-être trouver un verset dans les Proverbes. Dans les Proverbes, il est dit, chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » C'est comme un motto sur ce livre. Nous avons vu la grâce de Dieu qu'il a donné ce pays promis à son peuple, mais nous avons vu dès le début du livre des Juges le déclin. Et puis là, chaque fois, Dieu est intervenu en grâce. Donc, je ne peux pas répéter ce qu'on a vu au début, ce que le pays signifie, seulement juste quelques pensées. Le pays promis était donc le plan de Dieu pour son peuple terrestre. Et nous avons vu que ces choses ont été écrites pour notre instruction et que Dieu avait dans son propos, le propos éternel, un pays pour nous, le pays céleste, où le Seigneur Jésus est maintenant, où nous pouvons jouir de la vie éternelle, même si nous sommes encore ici-bas, dans le désert, nous pouvons jouir de la vie éternelle. Mais cette vie vient d'en haut, de la maison du Père, et aussi du Seigneur Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur, par son esprit qu'il a envoyé et qui habite maintenant dans nos cœurs. Donc, ces choses, on ne peut pas examiner maintenant en détail. Ensuite, nous avons vu que l'histoire d'Israël est aussi l'histoire de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'Israël a la même position que l'Église, mais comme témoignage de Dieu sur la terre, il y a des parallèles. Israël, le peuple terrestre, a manqué. L'Église, le peuple céleste, a manqué. Il y a des parallèles, des principes moraux qui sont parallèles. Une autre chose que j'aimerais mentionner, ce livre des Juges nous donne des conflits dans le pays. Si vous étudiez le livre des Juges, nous voyons des conflits pour entrer dans le pays, pour prendre possession du pays, pour prendre possession de nos portions, de notre héritage personnel ou familial. Toujours des conflits, des combats. Mais ici, dans les Juges, le conflit est différent. Là, le peuple est dans le pays, puis l'ennemi revient pour ôter la bénédiction du pays. Et on voit que ce conflit était au sud du pays. C'était le premier conflit qu'on a étudié dans chapitre 3. Au nord du pays, les conflits qu'on a étudiés dans chapitre 4 et 5. Et au centre du pays, chapitre 6 jusqu'à 10, même les juges qu'on a ici après Abimélec, c'est au centre du pays. Maintenant, le chapitre qui est devant nous, ou les chapitres aujourd'hui, chapitre 10, 11 et 12, c'est l'est du pays, à l'est, et même l'autre côté du Jourdain. On va revenir à la signification de cela. C'était un conflit, surtout au-delà du Jourdain, l'autre côté du Jourdain. Puis après ça, une prochaine fois, Dieu voulant, on va voir un autre conflit en rapport avec Samson. C'était à l'ouest du pays. Donc on voit ici que l'ennemi attaque tout le pays, tout le pays. Maintenant, encore une autre introduction, une remarque introductoire. On a vu un parallèle, comme j'ai dit, entre Israël, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Et si vous connaissez l'histoire ou les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, ça peut aider beaucoup à comprendre certains détails. Et pour nous, c'est très important de voir ce parallèle. Vous connaissez ce verset-là de 1 Corinthiens 10 qui nous dit « Toutes ces choses ont été écrites auparavant et l'heure sont arrivées pour notre instruction, pour nous avertir, pour nous corriger, etc. » Et ainsi, nous voyons dans ce livre des Juges un cycle qui se répète souvent. Le cycle est le déclin qui intervient et puis la restauration. Il y en a 7 cycles qui se répètent. Et on voit donc de la même façon 7 phases ou 7 cycles dans l'Apocalypse 2 et 3. Ça, c'est donc le parallèle. Maintenant, lorsqu'on étudie ces cycles en détail, on voit donc le premier point de départ, c'est le péché. On l'a vu aussi dans chapitre 10, on va revenir à ça. Le péché ou la rébellion, c'est le moment où ils ont commencé à servir les faux dieux, les idoles. Et puis là, on voit comment ils étaient en esclavage, en servitude. C'est aussi du côté de Dieu la rétribution de leur péché. Ils se sont rebellés et Dieu donne dans ce sens-là une rétribution. Sous l'esclavage de ces faux dieux, ils ont expérimenté toutes sortes de maux, toutes sortes de problèmes. Puis là, il y a un troisième élément dans ce cycle, c'est la repentance et la supplication. Ils ont supplié, on a lu aussi dans chapitre 10, la repentance et la supplication. Et puis le quatrième élément, la restauration, Dieu les ramène, Dieu accepte cette repentance, cette confession. Il donne le salut, il envoie un sauveur qui est aussi un juge. Donc voilà l'intervention de Dieu, la restauration, le salut, le sauveur. Et puis le repos. Le repos, on l'a vu plusieurs fois, et c'est ça qu'on a aussi dans ces premiers juges du chapitre 10, un temps de repos et de la bénédiction. C'est donc ce cycle qui se répète souvent. Mais nous avons vu que le niveau de ces cycles est toujours plus bas, comme on le voit aussi dans Apocalypse. Dans le chapitre 9, on a vu une phase très sombre. Nous avons mentionné des parallèles entre Thyatire, c'est l'histoire de l'Église catholique, surtout pendant le Moyen-Âge, cette période sombre, noire, ténébreuse dans l'histoire de l'Église. Dans Jephté, on va voir une autre intervention de Dieu pour remédier à ça. Abimélec était là pour lui-même. Il était le roi qui s'est présenté à ce peuple. C'est la propre volonté, c'est l'idolâtrie. On a vu ça dans le chapitre 9 et on a vu dans la parabole de Jotham les ressources que Dieu nous donne pour remédier à ça. Et on pourrait suggérer maintenant qu'avant que Jephthé soit introduit sur la scène, il y a deux juges après Abimélec, Tola et dans le verset 3, Jaïr, qui sont comme une transition entre Abimélec et Jephthé, mais qui en soi, en eux-mêmes aussi, donnent des remèdes pour un temps aussi noir que le temps d'Abimélec. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, si vous connaissez un peu les détails de ces jours sombres où le pape était maître sur l'Europe occidentale, maître souverain absolu, on voit quand même dans ces jours de déclin des hommes de Dieu. Et j'aimerais comparer ce Tola et aussi ce Jaïr avec ces hommes de Dieu qui ont vécu dans ce temps-là. Je pense à Wycliffe, par exemple, et Tyndale, d'autres hommes de Dieu en Angleterre, en Europe, qui ont vécu en France aussi, en Suisse, à la fin de cette période sombre, juste avant la Réformation. Avec la Réformation, comme on le voit dans Jephthé, on va revenir à ça, Jephthé veut dire « qui ouvre », nous voyons que la parole de Dieu a été ouverte. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécial pour cette période de la Réformation. Donc, les grandes lignes, on a vu dans Gédéon, Pergamus, et puis le déclin, le point le plus bas, le plus creux dans Abimélec, la période de Thyatire. On a vu que c'était le plus long chapitre de Juges. Ainsi, cette période-là représente aussi la période la plus longue dans l'histoire de l'Église. Mais ce qui est beau de voir, que même là, Dieu a eu des hommes de Dieu. Et une expression qui me frappe là au début du chapitre 10, il est dit que cet homme se leva. Nous avons vu dans chapitre 2 que Dieu a levé, a suscité des hommes. Mais ici, même dans ces jours sombres, il y avait des hommes avec cette énergie spirituelle qui ne connaissaient pas beaucoup de la parole de Dieu, mais qui avaient cette énergie spirituelle qui venait de Dieu. Ainsi, Tola représente un principe important. Tola, son nom veut dire écarlate. Et ce mot écarlate est lié au mot vert. Dans Job 25, il est dit que chaque homme est comme un vert. Et aussi de Israël, dans Isaïe 41, il est dit qu'Israël est comme un vert. Mais ce qui nous frappe surtout, c'est de voir que le Seigneur Jésus lui-même se compare avec un vert. Dans le psaume 22, il était ce vert qui nous parle de son humiliation. Donc, vous comprenez maintenant le contraste entre Abimélec, un homme qui s'est levé contre Dieu en rébellion. Il y a Tola qui parle de l'humiliation, de l'humilité. Et pour nous, c'est une leçon. Pour pouvoir remédier à une situation comme caractérisée par Abimélec, il faut être humble. Il faut être comme le Seigneur Jésus dans le psaume 22. Le père de Tola était Pua. Pua veut dire parler. Ça nous représente donc quelque chose de la parole de Dieu. Dans ces jours sombres, il y avait quand même quelques gens qui avaient une Bible, qui connaissaient la parole de Dieu. Fils de Dodo, Dodo veut dire son bien-aimé. Donc Dieu a eu des hommes pour lui-même, même dans des jours difficiles, comme les jours d'Abimélec ou juste après, et comme dans l'histoire de l'Église, dans les jours sombres du Moyen-Âge. Des bien-aimés, ceux qui ont parlé la parole de Dieu, ceux qui étaient humbles, comme Tola. Et il se leva pour sauver Israël. Il ne se leva pas pour être le roi, pour être grand pour lui-même. Il se leva pour sauver Israël. Une énergie spirituelle qui venait de Dieu. Il habitait à Shamir, où il est mort aussi. Shamir veut dire dureté, mais peut-être aussi garder. Garder, ainsi, cet homme-là, et ces hommes desquels j'ai parlé dans l'histoire de l'Église, ont gardé la parole de Dieu, quelque chose de Dieu, pour la prochaine génération. Le verset 3, « Après lui se leva Jaïr. » Il y avait aussi un autre élément là. Jaïr veut dire « éclairer ». Ces gens-là étaient éclairés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, ils pouvaient être des porteurs de lumière. Des porteurs de lumière, même avant cette grande réformation qui a eu lieu. Donc, ils ont vécu dans un temps de transition et ils représentent des principes importants pour nous aussi, pour remédier au mal, comme on le voit dans Abimélec, et ainsi pour préparer aussi la venue d'un autre homme de Dieu comme Jephthé. Et peut-être je devrais dire aussi que ces hommes-là représentent quelque chose du Seigneur Jésus. On ne peut pas dire toujours que ces juges sont des types du Seigneur Jésus. Il y a tant de manques en eux qu'on hésite à dire qu'ils sont des types du Seigneur Jésus. Mais ils sont des types des croyants. Parce que souvent, nous sommes caractérisés aussi par beaucoup de faiblesses, comme on va voir avec Jephthé et plus tard avec Samson. Donc, ils parlent plutôt des croyants. Ou, est-ce que je peux dire, des vainqueurs. Je pense que ces hommes-là représentent quelque chose du Seigneur Jésus, quelque chose que Dieu a opéré en eux et qu'on voit en perfection dans le Seigneur Jésus. Et en même temps, il nous parle donc de nous comme croyants. Mais dans ce point de vue-là, sous ce point de vue-là, de vainqueur. Et il est beau de voir que ce jaillir a eu un effet sur la prochaine génération. Vous voyez, il était éclairé lui-même, mais il pouvait donner de la lumière. Galaade parle aussi du témoignage. Et on voit dans le verset 4, il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux. Ça veut dire qu'il connaissait donc pas seulement une certaine prospérité, mais aussi une certaine dignité. Le Seigneur Jésus est entré sur un anneau dans Jérusalem. Et ainsi, on voit que Jaïr a maintenu quelque chose du témoignage de Dieu pour la gloire de Dieu, et il a ainsi influencé une prochaine génération qui avait de semblables qualités. Il est dit, ils avaient 30 villes qu'on a nommées jusqu'à aujourd'hui les bourgs de Jaïr, lesquelles sont dans le pays de Galaade. C'est très limité comparé avec un roi qui roule sur, gouverne toute une contrée, tout un pays, mais c'est quand même un principe de gouvernement qu'on voit ici, un effet que cet homme a eu sur la prochaine génération. Et je compare ça avec Déborah, on a vu dans Juges 4 et 5 l'effet que Déborah a eu sur la prochaine génération, comment elle les a préparés pour faire quelque chose pour Dieu. À la fin du verset 5, il fut enterré à Camon. Camon veut dire substance ferme ou élévation. Donc il y avait un témoignage pour Dieu même dans ces jours sombres. Mais l'Esprit de Dieu nous montre, depuis le verset 6, la situation très sombre qui va maintenant introduire une solution qui vient de Dieu dans Jephté. Il y a 7 dieux qui sont mentionnés là, ou 7 sortes de dieux. C'est donc une plénitude de mal. C'est terrible la situation présentée dans le verset 6. Si vous voulez comparer le chapitre 2 avec le chapitre 10, il y a un parallèle. Mais on a vraiment ici le point le plus bas. Et ensuite, il est dit, à la fin du verset 6, « Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent pas. » Est-ce que vous voyez là un parallèle avec Apocalypse 2? Le Seigneur Jésus a dit au début, à Éphèse, « J'ai quelque chose contre vous, que vous avez abandonné votre premier amour. » Et puis, on voit ici où ça amène, cet abandon du premier amour, ça va introduire le service d'autres dieux. C'est une question de nos affections. Ce premier amour, ça veut dire nous voyons le Seigneur Jésus comme celui qui gouverne nos cœurs, qui est tout pour nos cœurs. Et si on abandonne ce principe-là, si le Seigneur Jésus ne signifie plus vraiment tout pour nous, on l'abandonne, puis on va se tourner vers d'autres dieux. C'est un principe important dans nos vies. 1 Jean 5, à la fin du chapitre, dit « Enfants, gardez-vous contre les idoles ». Et c'est pas seulement quelque chose pour les Israélites, là, c'est quelque chose pour nous aussi. Ça peut nous arriver que nous soyons placés sous de telles influences qui prennent la place du Seigneur Jésus. Ce sont des influences différentes. Baal, ça veut dire maître ou seigneur, ça parle de l'autorité. Ashtoreth, c'est plutôt en rapport avec les affections, c'est le côté féminin. Les dieux de Syrie, je ne sais pas, je ne peux pas donner tout de détails ce que ça représente vraiment, mais c'est des moyens que Satan a à sa disposition pour remplir le vacuum. Si le Seigneur n'est plus tout pour nous, il y a un vacuum et Satan va remplir ça. Il est un maître pour ça. Il a beaucoup de moyens à sa disposition, soit des philosophies humaines ou toutes sortes d'amusements ou quoi que ce soit. On voit tout un scala de possibilités qu'il a à sa disposition pour remplir ce vacuum. On va revenir aux Philistins en rapport avec l'histoire de Samson, mais il fait mention ici des dieux de Moab et des dieux d'Ammon. C'était donc des dieux d'un peuple qui était très proche à Israël. Et nous voyons l'effet que cette influence a eu dans l'histoire d'Israël et aussi dans l'histoire de l'Église. Ceux qui étaient très proches peuvent avoir une influence plus grande que ceux qui sont loin. Je veux dire, les Chinois ne m'influencent pas beaucoup. Mais s'il y a une déviation dans ma famille ou dans ceux qui me sont proches, ça m'affecte plus vite, vous voyez. Et puis, les Philistins, on va revenir à ça parce que c'est là l'ennemi dans le pays, qui attaque dans le pays, où on jouit de ses bénédictions célestes. Tandis que les dieux d'Ammon et de Moab sont en rapport avec l'autre côté du Jourdain. On va revenir à ça dans quelques moments. Maintenant, le verset 7. Donc, dans ce cycle, la rébellion, le péché, il y a maintenant la rétribution, la réaction de Dieu, verset 7. La colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël et il les vendit en la main des Philistins, en la main des fils d'Ammon qui opprimèrent et écrasèrent les fils d'Israël cette année-là. Et puis verset 8 nous dit, pendant 18 ans, c'était donc 18 ans, ils écrasèrent tous les fils d'Israël qui étaient au-delà du Jourdain, dans le pays des Amoréens qui est en Galaade. Maintenant, il faut que je dise quelque chose sur cet au-delà du Jourdain. Vous vous rappelez de ce principe-là, il y avait le Jourdain. Le Jourdain a fait une distinction entre l'au-delà du Jourdain et le pays. Le pays nous parle des choses célestes pour nous. Le pays était vraiment ce parti promis à Israël, et ça nous parle des propos de Dieu, les promesses, la vie éternelle, les promesses que Dieu a pour nous. Pour entrer dans le pays, il faut traverser le Jourdain. Il faut être identifié avec la mort et la résurrection de Christ. Je m'excuse, on ne peut pas expliquer tous les détails, parce que dans ce cas-là, il fallait qu'on étudie Colossiens et aussi le livre de Josué. Mais ce principe, vous pouvez comprendre. Pour être dans le pays céleste, pour jouir des bénédictions célestes et spirituelles et éternelles, il faut être identifié avec la mort et la résurrection de Christ. C'est ça le principe. Tandis que l'au-delà, l'autre côté du Jourdain, c'était aussi une partie que Dieu avait donnée à Israël. Il l'avait pris des rois amoréens. On va revenir à ça plus tard, dans le chapitre 11, où nous voyons toute cette histoire-là. Les Amoréens avaient occupé ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'au-delà du Jourdain, l'autre côté? Ça nous parle des bénédictions terrestres que Dieu nous donne. Ces bénédictions terrestres, une bonne santé, ou la richesse, ou la vie familiale, la vie de couple, ce sont des bénédictions terrestres qui viennent de Dieu. Mais on voit que l'ennemi les a occupées. L'ennemi a pris ce pays-là, les Amoréens, ces rois maudits. Ils étaient maudits par Dieu. Dieu a eu beaucoup de patience avec eux, mais c'est eux qui ont occupé ce pays et ces bénédictions. Et ces rois nous parlent des influences occultes. Nous voyons que ce n'est pas bon pour le croyant de jouir de ces bénédictions sous l'influence de ces rois d'Amoréens ou Cananéens. Il faut que ces rois soient liquidés et que le peuple de Dieu puisse occuper cette partie du pays. Que le peuple de Dieu reçoive ses bénédictions de la main de Dieu ou de la main de Moïse, comme Deutéronome nous l'explique. Donc, il y a une distinction entre l'au-delà et le vrai pays à l'autre côté du Jourdain. Et nous devons comprendre que ce conflit avec les Ammonites, dans chapitres 10 et 11, est surtout dans l'au-delà du pays. Donc, fait référence aux bénédictions terrestres ou notre position terrestre, ou notre position même dans le désert. Tandis que le vrai pays nous parle des bénédictions célestes. Juste pour le dire, pour le comparer avec une épître dans le Nouveau Testament, si je parle de l'au-delà, je peux comparer ça avec l'épître aux Romains. Dans Nombre 22, 23, 24, nous voyons l'attaque de Balak, et il a loué un faux prophète, Balaam. Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu, mais il n'a pas pu le faire. Et dans Romains 8, nous lisons une pensée semblable. Qui peut condamner le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu était dans le désert, il n'était pas encore dans le pays, mais juste devant Dieu, justifié. Dieu n'a pas vu d'injustice dans leur tente, ok? Donc ça, c'est la situation dans cette partie-là, la fin du désert, mais c'était encore l'au-delà du Jourdain. Comparez ça pour un moment avec l'Épître aux Romains. Et c'est là où ce conflit a eu lieu. Tandis que le pays, c'est ça qu'on trouve dans les écrits de Jean, par exemple, ou surtout dans Éphésiens, Colossiens, une partie de Colossiens, ça nous parle de Christ dans la gloire et les bénédictions qui sont notre portion maintenant. C'est donc le vrai pays. Donc il faut distinguer. Donc nous avons vu la distinction un peu entre l'au-delà et le vrai pays. Ok, verset 8. On continue maintenant dans le verset 9. Où on voit que les Ammonites ont même passé le Jourdain pour faire la guerre, aussi contre Juda et contre Benjamin. Donc Juda, la louange de Dieu, l'ennemi attaque, ne veut pas la louange de Dieu. Contre Benjamin, le fils de la droite. C'est Christ qui est roi et maître dans le pays. Benjamin, le vrai Benjamin, il est le fils de la droite. L'ennemi l'attaque. Il ne veut pas que nous ayons une impression de la grandeur de Christ comme l'homme de la droite de Dieu. Et contre la maison d'Éphrim, Éphrim veut dire fertilité. L'ennemi ne veut pas que nous croissions, que nous fassions des progrès spirituels. Il ne veut pas, il nous attaque, même dans le pays. Et le résultat, Israël fut dans une grande détresse. Mais nous avons vu donc que c'était leur propre faute. C'est dans les voies de Dieu que Dieu a permis ces attaques, parce qu'eux s'étaient tournés vers les idoles. Ils avaient tourné le dos vers Dieu. Et puis là, verset 10, dans cette grande détresse, les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, disant, « Nous avons péché. » Voilà donc un élément de repentance et aussi une confession. Verset 11, l'Éternel dit aux fils d'Israël, il va raisonner maintenant, peut-être par un prophète, parce que c'est quelques versets là, peut-être c'est un message prophétique qui est venu au peuple. Il dit, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens ?» Maintenant, on a sept ennemis desquels Dieu les a délivrés, des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins et les Sidoniens, Amalek et Mahon. Ce sont donc des ennemis différents qui attaquent le peuple de Dieu. Et Dieu les avait délivrés de ces influences, de ces ennemis. Ainsi, pour nous aussi, Dieu nous a délivrés avec une grande délivrance. Je pense à Marie de Magdala. Elle a eu 7 démons. Le Seigneur l'a délivrée de ça. Et malgré cette grande délivrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 11, verset 13, « Mais vous m'avez abandonné. » On n'est pas meilleur que le peuple d'Israël. On n'est pas meilleur que beaucoup de croyants qui ont connu cette grande délivrance et qui ont malgré tout abandonné Dieu. Et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. On voit ici que Dieu, humainement parlant, il en a assez. L'histoire se répète. Il est intervenu pour les sauver, puis il se tourne contre lui de nouveau. Donc, le moment est très solennel ici. Ils se moquent d'eux-mêmes, verset 14. Allez, criez au Dieu. C'est comme Élie, le prophète sur la montagne là de Carmel. Il s'est moqué de ses serviteurs de Baal. Mais peut-être Dieu le fait ici pour les faire réaliser leur état. Allez, criez au Dieu que vous avez choisi. Eux vous sauveront au temps de votre détresse. Mais là, ils l'ont réalisé, verset 15. Les fils d'Israël dirent à l'Éternel. Donc on voit, l'exercice est plus profond maintenant. Il y a donc un élément de repentance dans le verset 10, mais Dieu veut que cet élément de repentance soit plus profond. Ça peut nous arriver aussi, que Dieu permette des circonstances contraires, hostiles, pour que cet exercice soit plus profond. Et puis là, verset 15, les fils d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. C'est une confession qui vient du cœur, ok? C'est le premier élément. Mais Dieu ne veut pas seulement une confession profonde. On le voit aussi plus tard dans l'histoire d'Israël, dans les jours d'Esdras, de Néhémie. Il ne veut pas seulement cette confession, comme on le voit dans le psaume 32, par exemple, avec David, après ce péché avec Bathsheba, avec des expériences très douloureuses. Non, c'est une chose, cette confession. Mais il veut que notre cœur soit vraiment tourné vers Dieu. Dans Jérémie, il est dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, ça implique le jugement de soi, mais aussi qu'on abandonne ce qu'on a fait auparavant. Verset 16 nous parle de ça. « Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers. » Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, il y a ce principe-là. Si quelqu'un confesse ses péchés, qu'il abandonne aussi de continuer dans ce chemin. Donc, ces deux éléments, la confession, l'abandon de ces choses, ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers. Et puis là, la réalité, ils servirent l'Éternel. On voit maintenant, ils ont servi l'Éternel en réalité. Et puis là, la réaction, la réponse de Dieu, verset 16. Son âme fut en peine de la misère d'Israël. C'est une expression qu'on dit anthropomorphique, c'est que Dieu parle comme un homme. Son cœur est touché en voyant cette misère d'Israël. Pas seulement la misère à cause de l'idolâtrie, mais ils se tournent vers Dieu, mais ils sont quand même dans la misère, parce que l'ennemi est encore là. Et ça me fait penser à un verset qu'on a cité déjà quelques fois dans Ésaïe 63, verset 9. « Dans toute leur détresse, il était en détresse. » Dieu aime son peuple. Même s'il doit les châtier, il est avec eux parce qu'il les aime. Il nous aime. Donc, quelle pensée touchante de voir que même l'âme de Dieu est en peine. Israël était en peine, mais Dieu était aussi en peine. Vous voyez? Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ok, maintenant, les versets qui suivent, versets 17-18, introduisent donc la nouvelle intervention. Dieu envoie maintenant un sauveur. Ok, on a vu donc ces trois éléments, la rébellion, la rétribution, la repentance. C'est maintenant comment Dieu va donner la restauration, ce sauveur. Mais maintenant, j'aime aussi montrer le côté humain et le côté de Dieu. Le côté humain et le côté de Dieu vont toujours ensemble. Mais il faut que le côté humain se soumette au côté de Dieu. Tandis qu'ici, dans cette histoire-là, on voit que le côté de l'homme est pas mal fort. Dans Abimélec, on voit un homme qui s'est élevé lui-même pour être roi. Ici, dans Jephté, nous voyons un homme que les hommes ont établi pour être sauveur. Ok? Je nie pas qu'il y a une intervention de Dieu, mais si on compare ça avec Gédéon, où Dieu a agi souverainement avec Gédéon. Il l'a appelé, on le verra plus tard avec Samson, une intervention souveraine de Dieu. Même avant qu'il soit né, Dieu était déjà là pour préparer ce serviteur. Tandis qu'ici, on voit la préparation du côté de l'homme. Les hommes l'ont préparé, les hommes l'ont choisi. Okay? Verset 17 parle donc de cette misère. Et verset 18, là, il cherche des remèdes. Le peuple, les princes de Galaad se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera à faire la guerre contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. Donc c'est le choix de l'homme. Et on voit donc là un contraste avec Abimélec. Abimélec s'est élevé lui-même, tandis qu'ici, Jephté est le choix de sa tribu, de son peuple. Mais il y a Donc, un élément que j'aimerais maintenant élaborer un peu plus en détail. Le nom Jephté veut dire « il ouvre ». Nous voyons le même mot, donc la même racine, par exemple dans Ésaïe 50, où le Seigneur Jésus parle du fait que Dieu a ouvert son oreille. Et la façon dans laquelle Jephté ouvre, c'est ainsi. Il ouvre la parole de Dieu. On va le voir cet après-midi, Dieu voulant, dans chapitre 11, dès le verset 12 jusqu'au verset 27, il ouvre la parole de Dieu. Et c'est très important à saisir ceci. Dans les jours sombres du Moyen-Âge, le joug romain était sur les gens, il n'y avait presque pas de Bible. Et même là, les Bibles qui existaient n'étaient pas des Bibles ouvertes, c'était juste dans un musée ou dans un monastère. Il n'y avait presque pas de gens qui connaissaient la parole de Dieu ou qui ont pu ouvrir la parole de Dieu avec autorité. Et nous voyons ici que Jephté ouvre la parole de Dieu avec autorité. Je pense maintenant à un homme comme Luther. Luther, le grand réformateur, il a vu la Bible la première fois lorsqu'il était déjà adulte. Nous ne pouvons pas comprendre le privilège que nous avons d'avoir chacun sa propre Bible. Même les enfants ont une Bible, peuvent lire la Bible, peuvent écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on écoute encore la voix de Dieu? Parce que dans ce temps-là, l'impact que la parole de Dieu a eu sur un homme comme Luther était vraiment merveilleux. Je ne veux pas dire qu'il a tout compris de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a eu un impact. Il a ouvert la parole de Dieu. Il a redonné la parole de Dieu au peuple. Il a même donné une traduction populaire pour que les gens puissent comprendre la parole de Dieu. Et ainsi, il a ouvert la parole de Dieu. Nous voyons Jephté ici qui a ouvert la parole de Dieu. Et on peut voir beaucoup de côtés négatifs aussi dans Jephté, mais que nous puissions maintenant souligner ce côté positif, celui qui a ouvert la parole de Dieu. Et ainsi, la réformation était une œuvre de Dieu pour réintroduire la parole de Dieu, la Bible ouverte au milieu du peuple de Dieu. Maintenant, j'aimerais aussi tracer encore un autre aspect de cet homme Jephté. Il était fils d'une prostituée. Nous avons vu dans Thyatire, la fin de l'histoire de Gédéon et aussi l'histoire d'Abimélec. Abimélec était le fils d'une concubine, mais on a comparé ça avec Thyatire. Et Thyatire, on a vu cet élément-là de la prostitution, le lien avec le monde et l'idolâtrie. Ces deux vont ensemble, l'idolâtrie et la prostitution. Et nous voyons que aussi les réformateurs qui sortaient de l'Église catholique étaient quand même les enfants de ce système. Ils ont amené beaucoup de choses, d'influence de ce système avec eux. Et ils ont dû se débarrasser graduellement de ces choses-là. Et il faut réaliser que nous tous, d'une façon ou d'une autre, on est sortis de là, de ce système prostitué et idolâtre. Et nous avons besoin de beaucoup de grâce, beaucoup d'aide pour être purifiés de ces influences-là. Nous voyons aussi un autre aspect. Il était un homme fort, un vaillant homme. J'ai déjà remarqué dans chapitre 10 au début que ce taux-là se leva. On voit là l'énergie spirituelle. Ici, nous voyons aussi cette énergie. Il était fort. Et j'aime voir là quelque chose du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le vrai homme fort. On voit dans Luther aussi un homme remarquablement fort. Le mot « Gébor » ici est un des noms du Seigneur Jésus dans Ésaïe 9. Il est homme-dieu, il est le vrai homme fort. Et le mot « vaillant », on le trouve en rapport avec Boaz, par exemple. On le retrouve en rapport avec Saül, le roi Saül, et plusieurs fois dans la Bible. Et cette qualité vient de Dieu. Et ainsi, nous voyons donc des qualités qu'on retrouve en perfection dans le Seigneur Jésus et qu'on voit ici dans Jephté. Et que Dieu aime voir aussi en nous. Il aime voir quelques qualités du Seigneur Jésus en nous. En lui est toute la force, mais il faut que cette force agisse aussi en moi. On voit maintenant dans verset 2 que les frères de Jephté l'ont chassé. Ça, c'est un autre élément. Lorsque je pense à Luther, ou les réformateurs, mais surtout Luther, il ne voulait pas quitter l'Église catholique. Il voulait changer cette Église. Il voulait la réformer. Mais il a été chassé. Ainsi, on voit que Jephté était chassé. Et c'est pour nous aussi une leçon importante de réaliser notre position devant Dieu, c'est pas pour améliorer la condition de l'Église apostate ou presque apostate. Si on l'essayait, on serait chassé, c'est sûr. Un autre élément que j'aimerais remarquer dans le verset 3, Jephté s'enfuit. Est-ce que vous savez que le mot sarde dans le Nouveau Testament, donc la phase après Thyatire, c'est sarde, ça va ensemble donc avec la réformation et plus tard le protestantisme, qui a beaucoup d'aspects négatifs d'ailleurs, mais le mot veut dire enfui, sarde veut dire enfui, où nous voyons donc un reste qui s'enfuit de la perdition de ce système corrompu. Ok, verset 3, Jephté s'enfuit. Il y a d'autres côtés négatif, là, il y avait ces hommes légers qui se ramassèrent autour de Jephté. Mais malgré tous ces aspects négatifs, il y a aussi des éléments positifs. Il était là à l'école de Dieu. Il était loin de la communauté. Il était dans un pays qui s'appelle Tob, ça veut dire bon. Il a éprouvé la bonté de Dieu à cette école de Dieu. Dans l'isolation, Dieu l'a formé quand même. Et je pense à David, lorsqu'il était chassé de, ou lorsqu'il s'enfuit de Saül, le roi Saül, il y avait des gens qui se sont réunis à lui. Des gens qui avaient des dettes, qui étaient dans la pauvreté ou des problèmes, et il est devenu leur chef. Okay? Avec David, ça va plus loin, parce que David est vraiment un type du Seigneur Jésus. Mais quand même, il y a des parallèles. Un autre élément que j'aimerais souligner maintenant, c'est le principe de la démocratie qu'on voit avec Jephté. Je l'ai mentionné déjà, ce sont les hommes qui l'ont choisi. Et cet élément est très fort. Dans ces versets 4 à 11, nous voyons la démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les églises protestantes ou dans, après cette réformation qui était une œuvre de Dieu, on voit que l'homme s'est tourné vers des méthodes humaines, comme la démocratie. C'est juste l'opposé du système hiérarchique. De l'hiérarchie papiste. Là, il y a un homme qui représente Dieu dans son arrogance, dans sa prétention. Tandis qu'ici, le peuple a choisi son leader, son dirigeant. C'est juste l'opposé. Et puis les deux solutions ne sont pas selon Dieu. Parce que le pape ne représente vraiment pas Dieu. Et le remède que l'homme a ici pour choisir soi-même son leader ne vient pas de Dieu non plus. Et puis ces deux extrêmes, on voit donc dans l'histoire de l'Église, dans Thyatire et Sardes. Mais quand même, il y a des éléments qui sont bons aussi. Il y a ces exercices, cette formation à l'école de Dieu. Il y a aussi ce principe-là, verset 9, « Si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, j'aimerais lire « Je serai votre chef ». C'est le principe d'être éprouvé d'abord et puis être le chef. Okay? Ça, c'est donc un aspect positif que la parole de Dieu connaît aussi. D'abord, les épreuves pour qu'un homme soit formé et éprouvé et ensuite qu'il soit le chef. Mais pas comme choisi par le peuple. Donc, on voit dans le système protestant souvent des solutions humaines qui ne viennent pas de Dieu. Mais quand même, il y avait des hommes de Dieu là-dedans. Vous comprenez? Un système peut être... n'est peut-être pas selon Dieu, mais ils peuvent y avoir des hommes de Dieu quand même. Et ainsi, c'est le cas avec Jephté. Il y a beaucoup de côtés négatifs et aussi des choses où on voit que Dieu s'est servi de lui comme son instrument. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Si on voit que Dieu opère avec ce qui est disponible et souvent des moyens faible. On l'a vu ça avec Othniel, il était gaucher. Ehud était gaucher. Mais l'autre, Othniel, était le plus jeune frère. On a vu Déborah, une femme. On dit rien contre les femmes, vous comprenez, mais c'était comparé avec cette ligne de pensée, c'était une vase faible. Et puis, on a vu chaque fois que Dieu s'est servi d'un vase faible. Gédéon, le plus jeune, la tribu la plus pauvre ou la plus petite et la maison la plus pauvre. Ainsi, Dieu se sert de ce qui est faible. Et Dieu se sert aussi de ce qui est disponible. Et juste une leçon pratique, nous sommes des croyants qui sont disponibles pour le Seigneur. Et le Seigneur veut nous former pour lui-même. Il veut nous utiliser là où nous sommes. Il veut nous élever, c'est clair. Il veut que nous soyons plus proches de lui. Il est toujours en train de nous former. Mais c'est sa grâce qu'il veut se servir de nous. Et j'ai pensé à un autre verset clé qu'on pourrait donner sur ce livre-là. On a dit... La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est un aspect. Un autre verset que j'aimerais citer, c'est de 2 Corinthiens 12, où nous voyons Paul dans beaucoup d'épreuves. Mais là, le Seigneur Jésus a dit, « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je le dis avec mes propres mots. Le Seigneur Jésus, sa puissance se réalise dans notre faiblesse. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ce livre des Juges, et aussi dans nos vies, ce principe que la puissance de Dieu s'opère à notre faiblesse. On va voir plus tard des éléments positifs avec Jephté, comment il a introduit la parole de Dieu, et on va voir des aspects négatifs que je mentionne déjà maintenant, ce vœu léger qu'il a fait, et aussi ce conflit entre frères, ce principe de sectarisme. Peut-être je peux dire entre-temps quelque chose sur les Ammonites. Il était donc des descendants de Lot, et Lot était parenté à Abraham. Donc c'est une famille assez proche du peuple de Dieu. Et nous avons vu le même principe en rapport avec Gédéon. Gédéon, là, il avait une attaque de Madian. Madian, c'était des descendants d'Abraham même. Il était encore plus proche du peuple de Dieu. Et nous devons donc réaliser que ceux qui sont extérieurement plus proches de nous, que ceux qui sont plus loin, comme les Chinois, comme j'ai dit, ceux qui sont plus proches peuvent être plus dangereux pour nous s'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ammon ne connaissait pas la grâce de Dieu. Ammon était dirigé par les démons, par les faux dieux, Et ainsi, il était très dangereux. Il y a des suggestions, par exemple, mais c'est juste comme une suggestion, qui compare Amon avec le rationalisme. On voit dans l'histoire de l'Église, après donc la Réformation, un danger très spécial que les chrétiens se sont laissés influencer par l'humanisme, par le rationalisme. Et ainsi, c'est une suggestion de dire, OK, Amon représente aussi ce principe-là, de vouloir discuter la parole de Dieu, de vouloir décider par l'intellect de l'homme sur la parole de Dieu. Tandis que Jephté, ce qu'il a fait, il a simplement ouvert la parole de Dieu, il a laissé parler la parole de Dieu. C'est donc une leçon pour nous. Amon, qui est proche du peuple de Dieu, qui peut même dire qu'ils ont parenté, plus ou moins, mais qui n'appartient pas vraiment au peuple de Dieu. Et ces faux docteurs ou ces professeurs de la théologie libérale ou la théologie moderne, ainsi appartiennent à Amon, ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de notre intellect, mais cet intellect que Dieu a donné doit être soumis à la parole de Dieu. Tandis que leur intellect n'est pas du tout soumis à la parole de Dieu. C'est ça la différence. OK, il le présente donc d'une façon modeste. Il dit, serais-je votre chef? Il pose cette question-là. Mais dans le contexte, on voit que c'était vraiment la pensée là. La pensée était vraiment qu'il soit le chef, mais il ne veut pas être le chef avant qu'il ait eu la victoire. C'est ça la pensée dans le verset 9. Si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, OK, serais-je votre chef? Il veut être leur chef, mais seulement après la victoire. Donc on peut le lire des deux façons. Mais mon point était qu'il serait le chef établi par l'homme. Verset 11, on le voit, le peuple l'établit chef et capitaine sur lui. Donc on peut parler aussi de la succession humaine dans l'Église. Nous voyons qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur la succession apostolique, par exemple, ou la succession humaine, ça c'est surtout dans l'Église catholique, tandis que dans les Églises protestantes, on met beaucoup d'emphase sur le fait que les presbytères, les anciens, sont choisis par le peuple et ainsi établis chef et capitaine. Mais là, les autres, qui étaient auparavant les chefs, transmettent leur autorité officielle par succession, par imposition des mains. Ils s'identifient avec ça. Donc il y a deux éléments là. Les anciens qui sont déjà en charge représentent cette succession officielle, tandis que les nouveaux qui sont choisis par le peuple sont choisis par le peuple, la démocratie, et ainsi reconnus par ceux qui étaient avant eux. Mais les deux côtés, c'est donc une solution humaine. Mais son attitude était bonne à plusieurs égards. Et on va le voir encore d'une façon plus remarquable dans l'histoire de Samson. Là, on va voir une intervention souveraine de Dieu, donc rien de l'homme, tout de Dieu, et quand même beaucoup de faiblesse, beaucoup de mal. Mais ça souligne un point qu'on voit dans le protestantisme. Il y a beaucoup de choses qui sont faites selon les pensées de l'homme, avec beaucoup de raisons, humainement parlant, mais ça ne veut pas dire que c'est une solution spirituelle selon les pensées de Dieu. C'est ça vraiment à réaliser. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est donc tellement encourageant pour nous. D'un côté, on pourrait dire que c'est un livre tellement déprimant, c'est un livre tellement négatif, mais c'est positif dans le sens-là qu'on voit que malgré les manques de l'homme, malgré les faiblesses, Dieu agit, Dieu intervient, et Dieu s'occupe du peuple. Et même dans l'état le plus bas, son âme fut en peine. Ça, c'est vraiment remarquable de voir la grâce de Dieu. Et ça nous montre aussi comment il nous aime. Mais ça ne justifie pas le système. On voit des hommes comme Tola, très positifs, comme Jaïr aussi, mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec un système comme Abimelech. Puis là, on doit toujours faire la distinction, le système comme tel et les hommes qui sont là. Parce que Dieu aime ces hommes-là. Il aime les croyants, mais il hait le système. Peut-être je le dis humainement, mais il n'est pas du tout d'accord avec le système, ni avec le système protestant, ni avec le système papiste. C'est ça. C'est pour ça, je ne sais pas si je l'ai mentionné en rapport avec Abimelech, mais dans Apocalypse 2, où le Seigneur parle de Thyatire,